RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story. Bienvenue avec nous, avec les GG, avec les grandes gueules pour débattre au 32-16. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Bonjour mon cher Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
Flora Guebali, entrepreneur, la transition écologique est des nôtres aussi aujourd'hui. Bonjour Flora.
Bonjour à toutes et tous.
Et le restaurateur étoilé, Stéphane Manigold. Bonjour mon cher Stéphane.
Salut Alain, salut Olivier, salut les GG. Bonjour à tous et puis bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent, les restaurateurs, qui sont en train de préparer, mijoter de bons plats que vous allez pouvoir manger fait maison, voilà, à partir de 12h30.
On en dira un petit mot tout à l'heure dans le « on s'en fout, on s'en fout pas ». On a une voix ce matin qui résonne, c'était vraiment une des voix les plus célèbres de la radio et de la télé.
Bonsoir.
Et vous vous souvenez de son bonsoir à Frédéric Mitterrand, l'ancien producteur, présentateur d'émissions sur le cinéma qui s'est éteint, qui est décédé, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture aussi.
À 76 ans, il était souvent venu nous voir dans les grandes gueules, on l'avait aussi reçu sur BFM TV, c'était d'ailleurs un invité très agréable parce que très courtois, intelligent, fin, qui avait toujours, qui jouait le jeu en fait. Et était très agréable. Et puis il a un parcours, enfin moi personnellement je me souviens dans les années 80, là je parle de choses que Flora n'a pas connues notamment, il présentait une émission culte.
Merci de rappeler
sur le cinéma,
la plus jeune du plateau.
Qui s'appelait Étoile Étoile, qui était formidable, c'était à l'époque où il y avait encore que 3 chaînes, et c'était sur TF1. Donc il a présenté des émissions qui sont restées, et puis il a eu ce parcours. Avant cela, il a été un patron de cinéma d'art et d'essai, il avait tout un réseau dans Paris, d'ailleurs il s'était complètement ruiné pour faire vivre sa passion du cinéma. Et puis il a été ministre. Et quand il a été ministre, bah, il a goûté à la politique. Et là, il est arrivé peut-être dans un milieu de requins et de loups. Ça a été compliqué pour lui parce qu'il en a pris plein la tête. D'autant plus qu'il avait publié ce livre, La mauvaise vie, quelques années auparavant, où il racontait qu'il faisait en gros du tourisme sexuel en Thaïlande. Marine Le Pen s'en était servie d'ailleurs pour l'attaquer politiquement. Il avait été défendu par Nicolas Sarkozy.
Il ne l'avait pas lâché. Pédophile.
Il s'était fait traiter de pédophile. D'ailleurs, j'ai un peu rendu hommage sur les réseaux sociaux, sincèrement. Et derrière, effectivement, j'ai vu les réactions. Elles sont particulièrement haineuses, hein. C'est fou. Quand un homme meurt, moi je pense qu'il faut savoir aussi à un moment donné, même si on ne l'aime, enfin, si on ne l'aime pas, on dit rien, quoi. Enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc je voulais lui rendre hommage à Frédéric Mitterrand.
Bruno.
Ouais, après.
Pas convaincu.
Bah moi son héritage c'est aussi le fait d'avoir fait construire la Fondation Vuitton sur un terrain non constructible. C'est aussi son soutien à la famille Ben Ali. Je trouve que son héritage politique est pas très très joli non plus. Mais bon après comme tu as dit, voilà, il est mort.
Il est mort.
Passons à autre chose.
Moi, j'ai découvert.
Tu l'avais rencontré, croisé, non?
Alors, bah, c'est marrant, je l'ai croisé une fois dans le métro à Paris. Voilà. Comme quoi, quand on vit à Paris, on croise des ministres dans le métro. Ça m'avait surpris, j'ai croisé Jean Castex plus récemment dans le métro.
C'est normal,
mais lui, c'est devenu le patron du métro. Donc, c'est pour une autre raison. Mais, voilà. Donc, moi, je croise des ministres dans le métro. Non, autrement, je le connaissais pas. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai appris hier, en lisant des articles sur lui, qu'il avait fait de la télé. Et pour moi, c'était un homme politique depuis toujours. En plus, il s'appelle Mitterrand. Ah, donc,
vraiment, pour moi, c'est vraiment le contraire, en fait.
En fait, c'est générationnel. Ouais. Et c'est triste parce qu'il y a des grandes carrières comme ça. Et en fait, on laisse assez peu de choses.
Alors que
à
la politique, finalement, n'a pas représenté grand chose dans tout ce qu'il a fait.
Voilà. Et pourtant, moi, j'ai connu que ça.
Ouais,
puisque,
bien sûr.
Voilà.
Et la plus jeune du plateau, on le rappelle.
Il avait vu dans ses restaurants, c'est
fait. J'aimerais bien qu'on le répète toute la matinée.
La première fois que j'ai rencontré, c'était en 2003, quand la garde royale marocaine avait défilé sur les Champs-Élysées. Ouais. On avait organisé les trophées Tadamoun avec Khalid El Grandelli, qui l'avait invité à Bercy, présenté la nuit du Maroc. Et je me souviens, il était arrivé, il ne connaissait pas le sujet. En 3 minutes, il a été briefé sur le thème, les raisons, etc. Il est arrivé, il a pris le micro. On avait l'impression qu'il avait créé le trophée Tadamoun. Il est très fort. Le mec, 3 minutes avant, il ne connaissait rien du sujet. Très, très fort. Après, pour le reste, je vais suivre ton conseil, Olivier. Ne dites rien.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui essentiellement dans les GG, dans les grandes gueules? On va parler des impôts, du déficit, Macron, le banquier flambeur. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts, tous les impôts, uniquement pour les super riches? Ça va être un peu le fil rouge de l'émission. En attendant, les amis, de recevoir lundi Bruno Le Maire dans les grandes gueules, hein. Le ministre de l'économie, ou plutôt, faut le rebaptiser, le ministre des économies. Il sera avec nous lundi.
L'écrivain, ou parce que lui, il sort un livre, enfin, il a du temps pour lui, parce qu'il sort un livre quasiment toutes les semaines.
Bah, tu sais, les livres d'écriture, les écrivains de temps en temps aux toilettes aussi, faire pipi, des fois,
ils ont une vie. Je vois qu'il parle encore des anus, mais c'est plutôt le nôtre qu'il est en train d'un peu d'embourber.
Oh non!
Ça y est, bonne vanne! Allez, à la...
Non, non, non. dérapage. Tu sors, t'es limite. Je vais lui coller un carton.
Mais on a plus la, t'as plus la tablette. Non, si t'as la tablette.
Pourquoi? Moi, j'ai lu ses livres. Je lis les livres de Bruno Le Maire. Hein,
ça bon, allez, parlons beaucoup. Des déficits. Go. Parlons des déficits parce que c'est vrai qu'ils s'aggravent. Alors, 10 milliards d'économies à trouver, 20 milliards l'an prochain, 50 milliards de plus, c'est ce que demande la Cour des comptes. Une croissance qui est en berne, déficits qui sont plus importants que prévu. Monsieur le ministre des Comptes publics, justement, Thomas Cazeneuve.
Qui dit ralentissement économique, moins de croissance, dit moins de rentrées fiscales, moins d'impôts sur les sociétés, moins de TVA, moins de cotisations sociales. Donc on le sait, le déficit sera plus élevé que prévu, ça sera supérieur à 5%. Encore une fois, c'est l'INSEE qui publiera la semaine prochaine. Et nous avons jamais caché avec Bruno Le Maire, quand nous l'avons constaté, que les recettes étaient moins bonnes, qu'il y avait une nouvelle donne sur le plan économique et international, et qu'il fallait réagir tout de suite. Et
voilà, chez nos confrères de France Info.
Alors ça, c'est la fable que nous raconte le gouvernement. En gros, tout allait bien, et puis depuis 3 mois, patatras, les recettes fiscales s'effondrent, la guerre en Ukraine, etc. Ça fait depuis 1975 que la France vit au-dessus de ses moyens. Donc c'est pas nouveau. Flora, toi tu es plus jeune, mais nous ça fait quand même quelques années qu'on fait du journalisme.
C'est le chignon.
Et ça fait des années qu'on dit la France est au-dessus de ses moyens, il y a un déficit record, il y a une dette, etc. Il y a des moments où ça va mieux, quand il y a de la croissance, donc on réduit le déficit, puis il y a des moments où ça va moins bien, et c'est le cas en ce moment, puisque la croissance est en berne, il y a une dette record, c'est-à-dire qu'on a dépensé beaucoup d'argent ces dernières années, et donc un déficit record. Et puisqu'on vit au-dessus de nos moyens, et ça c'est tout le temps, hein, c'est pas uniquement conjoncturel, eh bien les intérêts de la dette que nous devons payer sont en train de devenir le premier budget de l'État, c'est 57 milliards, c'est plus que le budget éducation nationale, c'est-à-dire que on rembourse simplement de l'argent qui pourrait servir peut-être à construire des écoles, à améliorer les hôpitaux, à augmenter certains fonctionnaires. Dans les collectivités, le nombre de fonctionnaires grossit plus vite que la population française, donc le fonctionnement de l'État coûte de plus en plus cher, c'est à peu près 20% de la dépense. Et puis, on a donc des oppositions, bien sûr, qui dénoncent cette gestion calamiteuse, mais quand ils étaient au pouvoir, c'est les mêmes géraient de la même façon, faut être clair et honnête, parce que gauche-droite, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Alors là, il y a un plan d'économie de 10 milliards d'euros pour 2024 qui est annoncé par Bruno Le Maire, qui sera chez nous lundi, 20 milliards pour 2025, ça semble être une goutte d'eau par rapport aux enjeux. Macron venait de la banque, alors on le disait, le Mozart de la finance, alors il y a beaucoup de gens qui vannent en ce moment en disant que c'est le Wagner de la banqueroute, le Beethoven du déficit. Est-ce que vous croyez que Macron sera capable de le faire? Est-ce que Macron, c'est le banquier flambeur?
32-16 pour en parler avec G. Stéphane.
C'est une situation qui est compliquée. C'est vrai qu'on est dans un pays aujourd'hui où la France est celui qui fait le moins attention, entre guillemets, à ses déficits. Et je vais vous donner quelques exemples. Je vais parler simplement des entreprises. Quand à Paris, tu as 5 notaires qui sont en procédure collective, c'est-à-dire qu'ils sont en cessation de paiement, 5 notaires. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on disait si tu veux avoir une rente à vie, fais notaire ou fais banquier. Là, tu as 5 notaires à Paris qui sont en procédure collective. C'est-à-dire que l'état économique du pays, il n'est pas bon. On voit qu'il y a un ralentissement dans la consommation, il y a un ralentissement des investissements. Quand les gens ne peuvent plus acheter de logement, c'est des taxes qui ne rentrent pas et elles sont entre 7 et 8%. On dit souvent les frais de notaire, mais les frais de notaire, c'est 1,5%. Tout le reste, c'est que des taxes. Donc, quand tu as un ralentissement de l'immobilier, un ralentissement de la consommation, un ralentissement fort du tourisme en France, lié à la peur, aux manifestations, aux mouvements divers et variés, tu arrives à ce qu'à un moment, l'État ne rentre plus de recettes fiscales. Et donc, effectivement, cette année, moi, je vous le dis, hein, il va y avoir des faillites en pagaille, il va y avoir des licenciements en pagaille, donc augmentation du chômage, donc augmentation des charges qui vont en face. Non, mais franchement, cette année, ça va pas être malheureusement.
Donc, il faut faire des économies. Jusqu'à la rentrée, il faut faire des économies.
Tu es très inquiet pour cette année 2024.
Moi, je suis très inquiet. Je pense que l'économie française ne repartira pas avant fin septembre. Si les Jeux Olympiques se passent très bien. Si les Jeux Olympiques se passent pas bien, c'est-à-dire que t'as un débile, un barbare ou un terroriste qui se pète dans Paris, je te dis pas, ça va être la Bérésina. Donc on peut tous souhaiter que ces JO se passent très bien pour que la pompe, elle reparte.
D'accord.
Il y a trois manières de traiter cette question de la dette. Il y a baisser les dépenses, il y a augmenter les recettes, donc en augmentant les impôts, ou il y a faire de la croissance économique. Ok ? La croissance économique, faut arrêter de dire elle baisse, elle monte, elle baisse, elle monte. La croissance économique, elle baisse structurellement depuis les années 70. Si tu regardes toutes les courbes, elles font comme ça, avec des petites remontées par moment, mais la tendance, elle fait comme ça. Et quand ça remonte, c'est souvent parce que l'État a décidé d'injecter quelque chose. Ouvrir le robinet de l'économie. Donc c'est aussi, quand la croissance monte, c'est parce que les dépenses de l'État montent. Donc ça règle même pas le problème. Donc il faut définitivement abandonner cette idée de croissance qui est un mauvais calcul des recettes publiques et privées, puisque ça ne fonctionne pas. Par ailleurs, la croissance, ça se fait aux dépens des ressources de la planète, de la biodiversité, du climat. Et donc c'est certainement pas une bonne solution. Pour moi, la solution, elle se passe à deux endroits. Le premier endroit, c'est les recettes. Où est-ce qu'on va chercher l'argent ? Où est l'argent aujourd'hui ? Et Pierre Moscovici, ce matin, le président de la Cour des comptes. Non, c'est.
Ouais, il faut des recettes. L'argent, faut de la croissance.
D'accord, La croissance, pas du tout. La croissance économique, comme on l'entend, c'est un mode de calcul qui est obsolète et qui n'est pas bon.
Ça crée des richesses.
Mais non, c'est pas parce que.
C'est un indicateur de richesse.
C'est ce qui permet la redistribution.
Non, mais d'accord.
Donc de pouvoir augmenter les impôts et de pouvoir redistribuer.
Faire croître les recettes de l'État, ça ne veut pas forcément dire la croissance économique. Me prends pas au mot sur la.
Comment tu fais alors s'il n'y a pas de croissance ?
Parce que tu prélèves. Je vais juste aller au bout.
Oui, mais j'essaie de comprendre.
Pour que les gens comprennent. Il y a un moment, pour moi, la solution, elle se passe à deux endroits. On a en France un projet colossal à réaliser, qui est la transition écologique.
Et là, il faut de l'argent.
Et il faut de l'argent. Et cet argent, il est où ?
L'utiliser.
D'après le rapport Pisani-Ferry, confirmé par Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, ce matin même sur RMC, il faut aller le chercher chez les ultra-riches.
La croissance, c'est juste un mauvais indicateur.
Il ne faut pas faire croître les choses de manière aveugle.
Oui, mais c'est parce que là, tu pars sur les impôts et le débat sur les impôts, on l'aura tout à l'heure. Là, c'est plutôt comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé à ce déficit abyssal? Est-ce qu'on a trop écouté les Français qui demandaient des chèques? Est-ce qu'on dépense trop dans la santé? Dépense trop dans les aides sociales? Est-ce qu'on donne trop aux entreprises? 150 milliards d'aides aux entreprises?
C'est trop.
Est-ce qu'on a trop de niches fiscales? Parce que là, le constat est là. Qu'est-ce qui nous a menés dans le mur? Tu vois, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui 5-7 de déficit? Pourquoi est-ce qu'on a des intérêts de la dette qui pèsent 58 milliards? C'est ça aujourd'hui. C'est des putains de boulets qu'on a au pied, quoi.
Je suis d'accord avec vous. Et moi, je rappellerai juste, parce que moi, j'ai fait partie de ces gens qui peuvent dire merci à Macron pendant le Covid, en fait. Parce que avec le chômage partiel, avec tout ce qu'il avait mis en place à un moment donné pour maintenir les commerces, maintenir un tas de trucs, il avait mis des trucs en place. Donc à un moment donné, évidemment, ça coûte. Sauf que derrière, tu te retrouves avec une crise qui te fait que ceux qui devraient rembourser peuvent pas, et que tout s'effondre aussi autour. Donc à un moment donné, et c'est pas Macron. Alors, je suis pas son meilleur ami, je défendrai jamais ce mec-là. Mais en fin de compte, c'est pas lui, c'est tout ce qui s'est passé avant. Et la première solution qui aurait peut-être dû être mise en place toutes ces années, c'était peut-être de réindustrialiser la France, de reproduire en France, de recréer des travailleurs en France.
Ce qu'a souhaité faire Macron, ça.
Oui, mais il a souhaité. Mais moi, je souhaite aussi qu'à un moment donné, de faire 10 cm de plus. Mais pour l'instant, tu sais quoi, j'arrive pas à grandir. Bah, lui, c'est pareil, il souhaite plein de trucs et il fait rien en fait.
Une politique de l'offre.
Mais pour l'instant, tu vois, et comme vous parlez d'échecs, mais moi, je suis pas sûr que les gens veulent d'échecs. Peut-être que les gens voudraient travailler et vivre de leur travail.
Non, mais la vraie question, c'est que il y a des réformes structurelles de l'État qu'on doit faire, et tout le monde le sait depuis des années, que personne n'a le courage de le faire. On empile les strates administratives, on embauche des fonctionnaires à tour de bras.
Pourquoi il y a des agences de l'État?
C'est quand même pas des communistes qui sont au pouvoir depuis 50 ans. Depuis 50 ans, c'est pas des communistes qui sont au pouvoir, c'est des extra-libérales. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait?
Mais je suis d'accord avec toi.
Pourquoi
c'est des étatistes?
Arrêtez aussi de donner
parce que Macron, beaucoup ont pensé que c'était un libéral, et finalement, s'est retrouvé avec un étatiste.
Je te cite un chiffre. La DRES, qui est la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques. En 2022, la France a consacré 32,2% de son produit intérieur brut à la protection sociale.
Ah oui, c'est ça.
848 milliards.
C'est le premier budget, la dépense sociale.
848 milliards. Alors, c'est
non, pas la protection sociale.
Si, globalement.
Protection sociale, c'est 350 milliards de mémoire.
Si tu veux, alors on va dire toutes les dépenses sociales. 848 milliards. Donc tu dis, quant à cette somme, est-ce qu'à un moment, si tu veux plutôt d'être sur la masse, tu peux commencer à regarder de manière précise.
J'aime bien ton chiffre.
C'est l'adresse, hein.
Mais il est très bien ce chiffre. Il y a 30 millions d'actifs en France, c'est-à-dire ceux qui travaillent.
Ça fait 12 550 euros par habitant.
Mais c'est, bah voilà.
Oui, mais.
Tu viens de faire une chose très simple.
Rien.
Tu viens d'inventer le revenu universel sans t'en rendre compte. Tu enlèves tout ça. Tu donnes 1000 euros à tout le monde. Réellement, tu changes ta vie. Hein. Celui qui gagne 1500 euros par mois, il va passer à 2500 euros par mois réellement. Oui. Tu changes la vie des gens et tu dis maintenant, stop, chacun se démerde. Je vous donne 1000 euros par mois. Vous êtes en arrêt maladie, vous êtes à la retraite.
Mais moi,
capitalisation,
je suis pas
1000 euros par mois.
Je suis pas trop d'accord avec ça parce que je suis pas trop d'accord avec ça parce que moi, si, enfin, une personne qui est cadre, qui a pas d'enfant, qui est célibataire, tu lui donnes 1000 euros par mois alors qu'elle a déjà plutôt un bon salaire, c'est super. Moi, je serais super contente d'avoir plus de pouvoir d'achat, mais c'est pas vital. Je sais pas, une mère célibataire par exemple qui a 3 enfants, qui a un travail précaire à temps partiel, elle a besoin même de plus que 1000 euros par mois.
Il y a beaucoup de gens.
Non, c'est beaucoup de gens. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 10% des Français qui a du mal à manger jusqu'à la fin du mois. Comment justifier qu'on donne à quelqu'un qui a du mal à finir les fins de mois le même montant que quelqu'un qui y arrive sans problème?
Juste quand je dis ce sont des exceptions qu'il va falloir regarder. Je dis pas que les cas sont des exceptions. Attention, je dis qu'il va falloir traiter ces exceptions en finançant plus.
Mais tu vois, tout le paradoxe, c'est qu'on est champion d'Europe de la dépense sociale. J'ai dit global avec les 848 milliards
des prélèvements obligatoires.
Et on est champion d'Europe des prélèvements obligatoires. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un déficit.
Et champion d'Europe des déficits.
Inédit.
De
donc, comment on s'en sort? Enfin, c'est.
On est déjà médaille
olympique. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Dans un instant, on file dans l'Essonne. On va discuter avec Sophie. Comment on en est arrivé là, à avoir autant de déficits, à être dans un gouffre total? On va continuer d'en parler. Mais puisqu'on parle argent, parle gros sous, les amis, c'est le retour du coffre RMC. Écoutez
bien. Ça, c'est un coffre bien géré.
50 000 euros à gagner. 50 000 euros à gagner vendredi prochain. C'est l'un d'entre vous qui ouvrira le coffre et qui gagnera peut-être les 50 000 euros.
Il y a Bruno Le Maire qui va appeler.
Pour cela.
Et en plus, c'est net d'impôts.
Ouais. Dès que vous entendez ceci, vous envoyez coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16. Écoutez bien, si vous êtes sélectionné d'ores et déjà, vous gagnez 2500 euros. Voilà,
c'est propre.
D'accord.
Ouais.
Mais vous pourrez les remettre en jeu en demandant à ouvrir le coffre RMC. C'est-à-dire, soit vous contentez des 2500, soit vous me dites, j'ouvre le coffre RMC. Et dans le coffre RMC, soit vous gagnez une semaine de vacances pour 6 personnes, soit c'est peut-être les 50 000 euros.
Oh bah, donc, ça vaut le coup de passer dans le coffre direct. Hein.
Ah, ben bah, tu peux tenter.
Les vacances, les vacances
pour 6,
ça coûte plus que 2500 euros.
Vacances pour 6 dans un des campings Tikayan.
Ouais, alors, donc, moi, je voudrais savoir, il ne faut pas laisser quand même le code à Emmanuel Macron, le code du coffre, hein, par les temps qui courent. Hein.
Bah, oui, moi, je demande si Bruno Le Maire essaye d'appeler pour rembourser la dette. Ouais.
Bon, dès que vous entendez le signal, un coffre par SMS au 732-16. Revenons à nos discussions, revenons à nos gros sous. Sophie, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Ingénieur, ma chère Sophie, en recherche d'emploi.
Exactement, en reconversion, exactement.
Ben, j'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on en est arrivé là? À qui la faute?
Alors moi, clairement, c'est de la faute d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui ont fait que de s'enrichir pendant qu'ils nous dépouillaient, nous.
C'est-à-dire, expliquez votre raisonnement.
Il a eu les clés du coffre, Macron, il a les clés du coffre et puis il s'amuse avec notre argent. On entend quand même qu'on doit faire, nous, des économies alors qu'eux se gonflent réellement. Comment on peut dire la même journée qu'on doit serrer la ceinture et nous, on entend qu'il y a des augmentations de frais de fonctionnement de 300 et de 700 euros. Hein? Monsieur Macron, il voulait l'Élysée.
Oui, les députés, les sénateurs.
Oui, exactement. Il voulait l'Élysée pour 2153 euros. Mais on a vu quand même qu'il a réduit lui-même son loyer. C'était bien plus avant du temps de Hollande.
Non, mais c'est vrai que le budget de l'Élysée ne cesse de progresser, les dépenses de l'Élysée également. Le gouvernement Borne, le précédent, c'était le gouvernement le plus cher de la Ve République. On avait calculé avec le nombre de ministres, de secrétaires d'État, de conseillers, pourtant on les a limités, hein, mais c'était le plus cher de la Ve République. C'est vrai que moi, c'est ça qui me frappe, je sais pas ce que vous en pensez, Sophie, mais on nous avait vendu un Emmanuel Macron venant de chez la banque, enfin, chez la banque Rothschild, un bon gestionnaire, quelqu'un qui savait ce que c'était l'argent.
Exactement,
on disait le Mozart des finances, et puis finalement, on se retrouve avec peut-être le président le plus dépensier de la Ve République.
Exactement. Quand j'ai acheté son bouquin Révolution, au final, il a un titre prémonitoire, ce monsieur, c'est ce qui va provoquer la révolution. Il
vous
est en train réellement de tous nous mettre en l'air au niveau.
Mais est-ce qu'on n'est pas,
attendez, c'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle dit, elle parle de révolution.
On voudrait tellement se Sophie, mais j'ai bien peur, hein, pour avoir été quand même au cœur des batailles, j'ai bien peur que les Français soient un peu
létards. Mais Sophie, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes un peu paradoxaux, les Français ? C'est-à-dire que dès que voyez le prix de l'essence monte, on dit au gouvernement hey, faites-nous un chèque. Dès que le prix de l'électricité monte, faites-nous un chèque.
Regardez bien, personne ne réclame les chèques. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est juste être payé que notre travail paye. C'est pas logique. C'est vraiment pas normal. Moi aujourd'hui, on est Pierre, on a 4 enfants à la maison, on est une famille recomposée. Mon mari et moi, on mange pas le midi, hein. On mange que le soir.
Ah bon?
Donc moi, le fait de serrer la ceinture, on l'a déjà.
Et vous travaillez tous les deux?
Non, elle est en reconversion.
Lui, il travaille et puis moi, je suis en reconversion. Ouais. Donc c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, hein, c'est compliqué, ma situation, elle est particulière. Mais ce que, c'est ubuesque. Réellement, c'est n'importe
Mais vous
quoi.
Ne voulez pas d'aide. En fait, ce que vous dites, des salaires, de bons salaires.
Ben oui, voilà.
Et laissez-nous vivre.
D'aide. Moi, aujourd'hui, ce qu'on me propose comme emploi, parce que même si je suis en reconversion, forcément, on me propose des emplois. On me propose des emplois à moins de 1500 euros. Je fais comment? Mais d'où aujourd'hui on pourrait fournir des horaires?
Dans quel domaine? Dans quel domaine?
Pour le coup, du coup, je regarde sur mon ancien métier, formatrice, donc formatrice d'adultes et formatrice de formateurs. J'ai du co numérique.
D'accord.
Donc quand je regarde ces missions-là aujourd'hui, c'est très mal payé. Je suis en reconversion parce que de toute façon, bon, ça c'est autre chose. C'est mon métier qui me. Ouais, j'ai fait un burn-out, etc. Mais
j'ai envie sur autre chose.
Voilà. Vous habitez où, Sophie?
Comment?
Vous habitez où?
Dans le 91, en Essonne, et je suis en plein déménagement parce qu'on part dans le Gers. Pour tout dire, on a ras-le-bol de la région parisienne, on a ras-le-bol d'être taxé, de tout payer trop cher. Moi, je vois mon frère qui habite dans le Nord et j'en ai un autre qui habite à Tours. Il y a beaucoup plus de plans des merdes, il y a du troc entre les habitants, il y a même des monnaies locales. Il y a des systèmes B comme ça qui fait qu'on arrive à un petit peu mieux s'en sortir.
Oui, donc en fait, maintenant, on cherche des plans de débrouille, quoi. C'est la France de la débrouille, quoi.
C'est clair, mon mari cumule 2 emplois.
C'est l'exode rural à l'envers,
parce qu'il livre des courses alimentaires, il prend des petites courses comme ça. Et moi, c'est pareil, je fais du repassage.
Ils ont quel âge, vos enfants?
Ça va de 18 ans à 6 ans.
Ah oui, et donc c'est des enfants à charge.
Sophie, c'est vous êtes la Française qui en a ras-le-bol quoi en fait aujourd'hui.
Vraiment, ouais, franchement, ras-le-bol.
J'entends ça.
Et qui avait lu le bouquin des
révolution et vous nous dites ce qui va récolter. Sophie, on va écouter un autre témoignage. On va aller dans le Rhône. Restez avec nous, Sophie, celui de Daniel qui est ingénieur comme vous. Il est ingénieur automobile. Bonjour Daniel.
Bonjour à l'équipe.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui selon vous Daniel, avoir autant de déficits et autres alors? À qui la faute?
Je vais vous répondre une chose. Cet été, enfin l'été dernier, j'ai lu un livre de Agnès Verdier-Moulinès que j'adore. Voilà.
Oui.
Qui explique les choses très clairement.
Moulinex. Oui.
Voilà. Donc déjà, j'invite tous les auditeurs à lire ce livre parce qu'il est vraiment passionnant.
Mais on l'avait reçu d'ailleurs.
Oui.
Voilà, tout à fait. Moi, je sors d'une banlieue de Vaux-en-Velin, vous voyez, c'est pour la Carpinière, etc. J'ai passé un CAP horticole et puis petit à petit, je me suis jamais contenté de ce que j'ai. Je suis devenu ingénieur en automobile, etc.
Félicitations.
Voilà, merci. Présonner les moyens aussi. On touche actuellement avec ma femme 12 000 euros.
Ah, c'est bien, vous faites partie de ceux qui sont vraiment
les plus aisés.
Oui.
On est riche. Oui. Donc, sur les 12 000 euros, on paye à peu près 4 500 euros d'impôts.
Mais
par mois, d'accord. On a récupéré nos petits-enfants parce que les parents étaient incompétents dans l'éducation des enfants. Donc, pas besoin de vous dire que là-dessus, on paye tout. On n'a aucune aide, on n'a rien.
Bien sûr.
Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on se dit... Je vais prendre mon exemple. J'étais embauché chez Renault pour faire des économies. Voilà. Donc, pas des économies sur le personnel, etc., des économies sur la façon de faire fonctionner les machines. Ouais, avec mon équipe, on a réalisé des économies, effectivement, pour faire fonctionner les machines en temps, en heure, etc. Aujourd'hui, l'État dépense de l'argent à tout va, d'accord, mais il priorise pas.
Oui, c'est la masse. Ouais.
Comment?
C'est de la masse. On fait de la masse, quoi, en fait.
On priorise pas. Donc, il y a plein de niches fiscales qui sont inutiles, qui correspondent à rien. Je prends par exemple la niche fiscale sur les beaux-arts. Voilà, par exemple, ça c'est une belle niche fiscale qui, je pense pas que Monsieur Marshall ou Monsieur Poncé ait un grand tableau chez lui d'une grande valeur, etc.
Moi, je pense pas non plus. Et pourquoi pas ça? Moi, je
serais voilà. Pourquoi pas soutenir l'art? Enfin, moi, je suis pas d'accord.
Oui, non, mais attendez.
Non, mais tu vois,
on a besoin d'un chien. Ah oui, c'est-à-dire,
soutenir l'art. Alors qu'actuellement, Alors qu'actuellement, moi, je vois dans mon entourage, je vois les parents d'élèves, etc. Il y a des gens qui se saignent parce qu'ils peuvent pas payer l'électricité, ils ont du mal à payer, ils ont du mal à joindre les deux mois. C'est une illustration qu'on peut s'en passer.
Aujourd'hui, donc vous dites, il faut regarder. Cas par cas, regardez toutes les niches fiscales, regardez voilà, là où on peut gratter, c'est ça.
Voilà. Parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Et ça, j'en suis certain. Hein. On va faire des économies. Mais attendez, dans le mot économie, il y a économie et économie. Donc, il y a les économies qu'on fait, les économies structurelles, c'est-à-dire que, on décide, par exemple, de regarder des niches fiscales, etc., sans pour autant, moi, embaucher d'infirmiers, de policiers, enfin, etc., oui. etc. Et de l'autre côté, on va faire des économies, on va augmenter les impôts.
On ne sait pas encore. Ce matin, Pierre Moscovici disait que
ça sent pas bon,
il faut pas qu'il y ait de tabou.
Ouais.
Mais Daniel, ce que je remarque, en fait, faudrait faire un audit, c'est ce que dit Daniel. Oui, un audit pour voir vraiment.
Oui, enfin, ça s'appelle la Cour des comptes.
Où est-ce qu'on peut renier.
Il y a l'administration pour ça.
Faire des économies.
Ouais, la Cour des comptes, moi j'y étais une fois. Et je vous garantis, si t'as envie d'aller là-bas, ouais, j'y étais sur l'époque de la réforme des retraites en 2019. Ils nous avaient reçus pour savoir un peu ce qu'on voulait.
Et c'est beau.
Ben, c'est beau, c'est très beau parce que c'est les heures de la République.
Oui,
en face de toi, t'as des messieurs un peu liquides, t'as un peu de tout, et en fait, tu sais quoi, ça sert à rien. Tu leur fais un exposé, derrière, ils te disent, et puis après, ils te disent, ben, c'est monsieur Intel qui va s'occuper de ça, et basta. Et en fait, ils te reçoivent et je ne sais pas à quoi elle sert. Donc, c'est ceux qui font des audits, ils ont pas dû aller se balader dans les lycées à Saint-Denis où il y a des rats, où il y a pas de toit. Ils ont pas dû aller dans les hôpitaux, on a fermé tous les lits pour laisser les gens mourir dans les couloirs. Je veux dire, franchement, ces gens-là, s'ils font des audits, ils les font par télépathie, hein,
parce non, que c'est d'ailleurs, le gouvernement les respecte pas puisqu'ils préfèrent commander des audits à McKinsey plutôt qu'à nos fonctionnaires.
Oui, bon, okay.
Stéphane,
oui, t'as raison. Juste en face de BFM, vous avez ce qu'on appelle le Pentagone français.
Oui. Ministère de la Défense.
Voilà.
Oui.
Il y a de quoi accueillir tout le ministère des Armées dans ce ministère. Aucun ministre des Armées n'a voulu y aller depuis que ça a été construit. C'est vrai que c'est plus sympa l'hôtel Bruyère dans le 7e avec un très beau jardin. C'est quand même beaucoup plus sympa. Mais juste en face de BFM, vous êtes en capacité. Enfin,
d'accord, donc on vend nos bâtiments publics, les ors de la République au retard.
On installe
les ministres en périphérie.
Mais c'est pas ce que je dis.
Je suis d'accord avec Stéphane. J'ai jamais compris pourquoi on devait loger nos ministres dans des hôtels particuliers.
Non, le ministère.
Mais donc on les vend. Mais donc on les vend à qui?
Moi, je pense qu'un ministre. Alors, pardon, je vais faire ma minute populiste. Mais un ministre qui arrive, on lui donne un chauffeur, on lui donne des conseillers, tout d'un coup on lui donne un hôtel de la République, c'est des hôtels particuliers magnifiques, c'est les musées, hein, c'est sublime dans le 7e arrondissement. Et donc le type après on lui explique, bon maintenant il faut que tu sois proche des Français, il faut que tu comprennes la réalité des choses. Je ne dis pas qu'il doit vivre comme un smicard, mais à un moment donné, il y a un décalage total. Dans les pays du Nord, les ministres ne sont pas dans des hôtels particuliers du 7e arrondissement, du 16e siècle ou du 17e siècle.
Ils achètent en mars avec la carte bleue du truc, ils se retrouvent en donjon.
Peut-être un peu plus de simplicité, un peu plus de proximité avec les gens. Un peu. Et je pense que ça les rend dingues, ça les rend hors sol. Et après ils se battent pour rester dans ces
Ils ont un appartement de fonction ou pas?
Mais bien sûr,
oui, 20 mètres carrés par enfant.
Non, je sais bien, selon toi, il faut leur donner un appartement de fonction ou on les laisse
Ils ont aussi une
pour se payer. C'est le ministère.
Oui, dans leur ministère,
avec
mais en même temps.
Ses équipes, ses collaborateurs qui est là-bas.
Aujourd'hui,
moi, je dis simplement qu'il y a un ministre, il y a le Pentagone qui a été construit en face, qui a rationalise.
Mais
c'est pas que le camp, c'est tous les ministres de la Défense.
Hier, je vous aurais dit, c'est normal, les ministres, ils travaillent jusqu'à pas d'heure et ils se lèvent à pas d'heure, donc ils savent bien. C'est bien qu'il
Mon boulanger travaille aussi à pas d'heure.
Attends, laissez finir, Florent.
Hier, je vous aurais dit, c'est bien parce qu'ils ont besoin de recevoir, d'être chez eux tout le temps, etc. Enfin, de travailler depuis le ministère, de vivre depuis le ministère. Aujourd'hui, malheureusement, vu que Macron a supprimé tous les corps intermédiaires, y compris quand même la charge de travail de beaucoup de ministres qui ont assez peu de pouvoir. Qui ont assez peu de pouvoir.
Flora a été appelée pour un ministère.
Stéphane, ça m'étonne de toi parce que je te connaissais plus fin stratège. T'as pas remarqué que le président de la République n'aime que, c'est la prime à la loyauté, la servitude totale. Une grande gueule comme moi n'a absolument pas sa place dans son équipe.
Non, mais je me disais que tu défendais tellement ce beau ministère avec tout le service, etc. Je dis tiens, t'as été appelé.
De toute façon, pour les loger. ajoutent à leur faire tant que le chat dans leur jardin.
Soyez, non, soyons bon, pas démagos, ils vont pas loger dans des bidonvilles, mais il y a, y a un décalage. Sincèrement, je trouve que les ordres de la République, comme les appelait Bruno Poncet, n'est plus en phase
avec la société. Oui, mais Olivier, dans une logique d'économie, tu enlèves les ministres, enfin, tu enlèves les,
non,
mais
d'accord,
tu les, oui, déjà, c'est du symbole. Mais surtout, une fois que les bâtiments sont vides, tu fais quoi? Tu les vends.
Tu les vends.
Qui peut les acheter?
Tu loges des gens qui ont pas de logement. Arrêtez, faut les loger.
Alors, tu fais des logements sociaux. Bah non, justement. Ça, avec plaisir. Le problème, c'est que les résidents du 7e, faut pas oublier qui c'est leur mère, c'est Rachida Dati. Je doute qu'ils acceptent.
Leur ancienne mère, ça n'a pas duré l'histoire.
Ah, bah elle est encore là. Elle est encore là. Elle est ministre à mi-temps, Rachida Dati. Elle a réussi une.
Oui, une doublette. Tu peux les transformer. Ces bâtiments sont des beaux hôtels particuliers. Tu les transformes en musée, tu les fais visiter.
En musée, c'est un beaucoup de musées à Paris. En
musée,
non, pour moi, vous savez ce que c'est la solution.
C'est pas gênant de les vendre.
La solution, c'est de faire un ministère par ville française pour délocaliser un petit peu le pouvoir. Et pour mettre, on met Darmanin dans les quartiers nord de Marseille, on va voir comment il le.
C'est pas mal, mais alors le conseil des ministres en visio alors.
Oui, le gouvernement, il monte à Paris en train tous les mercredis.
Alors
il y a plein de Français qui se déplacent.
Ouais, c'est vrai.
Et on met le Quai d'Orsay à Toulouse, l'intérieur à Marseille, l'éducation nationale à Strasbourg.
Et on fait un vrai
pays décentralisé où chaque ministre peut aussi s'imprégner d'une réalité
locale. Et la mer, on met
et travailler avec les élus locaux.
La montagne, comme ça le mec il saura ce que c'est que la montagne, la mer. De toute façon, voilà.
Voilà.
Et à Châteauroux, tu mets le ministère de l'Intérieur, ça Darmanin, il sera.
On met le ministre de la mer sur les côtes bretonnes. Comme ça, il comprend les dingueries de ces histoires de pêche.
Non, alors Macron, est-ce que c'est le banquier flambeur? J'ai pas regardé la consultation.
Oh, on connaît le résultat.
Oui, t'as raison, Stéphane. On a une petite idée. Alors, est-ce qu'on va taper les 100%?
Non.
On va regarder, s'il vous plaît. 93,4.
Wow.
On y reviendra tout à l'heure parce que la question qui fâche, c'est faut-il augmenter les impôts, oui ou non? Flora et Bruno disent oui, Olivier et Stéphane disent non. Ce sera le GG 7 et match tout
en
à
général,
l'heure.
C'est ceux qui payent pas d'impôts.
Moins 20. Dans un instant, on s'en fout pas.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, les GG en direct sur RMC, RMC Story. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous, merci de vous appeler au 3216, merci de participer à nos débats, à nos discussions, merci de témoigner. Avec qui sommes-nous aujourd'hui? Avec le restaurateur Stéphane Manigold, avec Flora Gebali qui est entrepreneur dans la transition écologique, avec Bruno Poncet, le cheminot et syndicaliste. Il est 10h moins le quart, 9h43, c'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. La proposition de loi visant à imposer aux restaurants la mention non fait maison sur leur carte a été retirée cette semaine. Une loi qui aurait obligé les plus de 175 000 restaurants de France à plus de transparence. Eh bien non, vous ne saurez pas si votre salade César, blanquette de veau ou linguine aux quatre fromages est industrielle. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Stéphane?
Pas du tout.
Flora?
Pas du tout.
Et mon cher Bruno?
Non, pas du tout.
Stéphane?
Non, pas du
c'est
tout.
Toi qui portais cette proposition de loi?
Oui, je portais cette proposition de loi ici même aux grandes gueules parce que nous avons beaucoup d'artisans qui nous écoutent et je suis très en colère.
Qu'est-ce
parce
qui s'est
que
passé?
Du kebab aux trois étoiles, le consommateur doit savoir ce qu'il mange. De la cantine scolaire à la prison, chacun doit savoir ce qu'il mange. Eh bien, les industriels ont décidé, puisque c'est un marché très lucratif pour eux, et il y a des chefs qui sont payés pour ça, ils ont décidé de retirer ce texte. Thierry Marx, le vendredi, il a pesé de tout son poids.
Président de l'UMI.
Président de l'UMI.
C'est pas ton syndicat, l'UMI?
Et alors, c'est parce que j'ai le droit d'être en désaccord,
mais
j'ai le droit de.
Je dis pas, mais je pose juste une question.
Tu sais, alors moi, je suis un homme libre, je ne suis pas rémunéré, je défends l'intérêt général, et j'ai fait cette déclaration d'ailleurs à l'Assemblée nationale en préambule en disant c'est en homme libre que je viens vous voir, je n'ai ni des artisans qui me payent, ni des coopératives, personne, ce n'est que l'intérêt général qui me motive.
Pourquoi le gouvernement a cédé alors?
Mais parce qu'ils ont menti, ils ont dit que c'est le d'afficher non fait maison était une notion stigmatisante. Mais nos vignerons qui nous écoutent là, actuellement, chaque année, ils traversent des tempêtes, de la grêle, des canicules, et on leur dit, quand vous avez fini votre travail, vous devez marquer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça, c'est pas stigmatisant. Et nous, restaurateurs, on a une blanquette, tu le citais, une blanquette de veau, toute faite, industrielle, avec des œufs de partout, de la merde, on enlève l'opercule, on te sert dans l'assiette, on te dit bon appétit, et le consommateur peut pas savoir s'il est en train de s'empoisonner. Mais je suis choqué, c'est choquant pour nos agriculteurs, c'est choquant pour notre ami Didier Giraud qui produit des viandes de qualité, c'est choquant pour tout le monde. Franchement, le consommateur, mais j'ai honte, tu sais pourquoi j'ai honte, Alain? Parce que là, les consommateurs qui nous écoutent, ils nous disent vraiment cette profession, elle est impossible, c'est que des ouin-ouin, ils passent leur temps à râler, on leur a baissé la TVA, ils nous prennent pour des cons quand on va au restaurant. Je vous le dis, s'il vous plaît, les amis consommateurs, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui travaillent et qui font bien et qui vous respectent.
Et si on avait fait l'inverse, c'est-à-dire plutôt que de mettre non fait maison, on avait mis fait maison, tu vois, c'est-à-dire que ce soit plutôt positif.
C'est pas constitutionnel, en fait.
Ah, d'accord.
C'est que si tu pèses des sanctions sur une partie de l'économie, tu dois, par effet miroir, le mettre. Et au fond, les derniers qui veulent pas que tu saches que c'est pas fait maison. Parce que dans Paris, Glace Bertion, il l'affiche. Quand c'est Johan Lastre ou des pâtés en croûte qui ont été faits par de bons artisans, on l'affiche, il n'y a aucun problème. Donc ceux qui veulent pas, c'est vraiment ce qui te servent, c'est de la merde. Alain, c'est vraiment de la merde.
Attends, Laura. Alain, le cancer, c'est positif ou c'est négatif? C'est négatif. Donc il est prouvé que les produits transformés industriels sont cancérogènes, qui sont mauvais pour la santé. Donc à un moment, on veut faire baisser le budget de l'État, on peut faire baisser le budget de la Sécu en alimentant bien les gens. Tous les médecins le disent, l'alimentation, c'est une des clés pour vivre en bonne santé et vieux. Donc si on veut que les gens vivent en bonne santé, si on veut préserver la planète et si on veut préserver l'économie française, parce que vous pensez qu'on trouve quel genre de poulet dans les produits transformés de chez Metro, par exemple? Vous pensez qu'on trouve quel genre de produits?
Vous pensez
que les animaux sont élevés dans quelles conditions? On donne des mauvais produits aux gens et on les met en danger.
Bruno? Rapidement.
Moi, j'ai lu quelque part, et Stéphane pourra confirmer, que des restaurateurs allaient, eux, le mettre sur leur carte en disant voilà, ou de l'écrire en disant voilà, nous ça sera fait maison. Ben moi j'invite les gens à aller que chez eux.
Tu as raison. Ben tu sais quoi, on va suivre ton appel et j'invite effectivement tous les restaurateurs à afficher fièrement qu'on fait maison, parce que nous on n'a pas peur de le dire. Ceux qui ont peur, ils font de la merde. Et ben vous savez quoi, t'as raison, je prends le pari.
Et McDo l'a fait, en fait, tu vois. McDo, c'est ce qu'ils disent aussi. Ils disent que nous on prend des viandes de sif, ils disent on prend des trucs le circuit court, et voilà. Donc
on enchaîne.
C'est de la merde.
Anaïs, vas-y, go.
Il faut mieux parler restaurant.
Le coffre, vas-y, le coffre, Anaïs.
Ah bah tiens, les amis, c'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC, pour tenter de l'ouvrir en tout cas. Si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros, vous envoyez tout de suite coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Attention, dépêchez-vous, vous avez 5 minutes pour envoyer ce petit SMS.
À vous de jouer, à vous de gagner. On continue, on s'en fout, on s'en fout pas.
Allez, on s'en fout, on s'en fout pas.
Ah, pardon, je procrastine. Les athlètes auront-ils leur médaille au JO de Paris? La fabrication des breloques est menacée par un mouvement de grève à la Monnaie de Paris, en charge de la production de toutes les médailles aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Bruno?
Ah non, on s'en fout pas.
Flora?
Moi, je m'en fous.
Stéphane?
Oh, je leur laisse la parole, j'ai eu un tunnel.
Plus parler des JO.
Oh, les GG, une cinquantaine de salariés sur 430 au total a cessé le travail pour demander des augmentations de salaire. Mouvement qui devrait être d'ailleurs reconduit. 5084 médailles quand même doivent être fabriquées d'ici juillet. Pourquoi on s'en fout pas, Bruno?
Non, parce que au-delà de la blague que je pourrais faire sur les grèves et tout, moi je trouve qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation comme ubuesque. C'est-à-dire que t'es à quelques mois des JO et rien n'a été prévu, en fait. Nous, il n'y a toujours pas les conducteurs pour mettre dans les trains. Dans la RATP, pareil, il n'y a pas les conducteurs d'en mettre dans les bus. Les médailles, elles sont pas finies et les gens qui doivent
les faire en chocolat, c'est pas grave.
Voilà. Mais tu vois, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas été prévu avant. Rien n'a été fait pour qu'à un moment donné, les choses soient linéaires et que ça se passe bien. En disant voilà, vous faites ça en plus, on vous donne un peu plus de rond. Enfin, il y a rien qui est fait. Et les mecs, ils demandent juste d'être payés à la hauteur de leur boulot. Et ben voilà. Et rien n'a été fait en amont. Je comprends. La gestion des JO dans sa globalité, c'est un carnage. Et j'espère, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, que ça va bien se passer, parce que mine de rien, pour l'instant, ça fait flipper. Hein.
D'accord.
Non, ils ont dit qu'ils s'en foutaient.
Ils s'en foutaient.
Allez, enchaîne. Anaïs, réveille-toi.
Mais oui, je dors.
Oh, putain.
La saison du barbecue est lancée, les GG. Saison lancée par notamment le grand salon du barbecue ce week-end à Paris. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
On s'en fout pas.
Pareil. Vous savez qu'à la Marshall, il va chaque année. Hein.
Ah, tiens, on va voir Alain si t'es un grand connaisseur du barbecue. Qui a inventé le barbecue? Ça vient d'où?
Ah, bonne question.
John bah, barbecue.
C'est qui a inventé le feu? T'as inventé le barbecue?
C'est John barbecue.
L'homme de Cro-Magnon.
Non, c'est
un américain.
Les amis, c'est une tribu amérindienne sur l'île de Saint-Domingue à l'époque, dont la technique de cuisson de la viande a été repérée par qui? Au 15e siècle.
Christophe Colomb.
Les Amérindiens qui ont importé cette technique aux États-Unis, le terme barbacoa, comme on l'appelait à l'époque et qui veut dire support en bois, s'est américanisé au 17e siècle pour devenir barbecue. Le barbecue qui s'est industrialisé quand? À peu près.
Au 19e siècle.
Non, dans les années 50.
Popularisé.
Bon, on s'en fout pas, Alain. Bah, vas-y, comment?
Alain, explique-moi.
Chaque année, c'est la troisième ou quatrième édition.
Moi, ça me fascine. Ah ouais. Aller au salon du barbecue.
Écoute, d'abord.
En fait, tu vas, Alain?
Ah oui, j'y vais.
Ah oui, tu vas au salon du barbecue.
Tu vas avec Barbara Lefebvre.
D'abord, tu as tous les exposants qui sont là, oui, qui te montrent. Ça va du tout petit barbecue à la machine infernale, le fumoir, etc.
T'as une cuisine.
Tu discutes, tu papotes, tu as le concours de piment.
Mais est-ce que tu manges?
Tu as le concours de piment et tu dégustes. Tu as plein de fabricants français de bras zéro qui sont là pour montrer leurs produits. T'as un vrai savoir-faire maintenant qui est là. Tu prends des cours de cuisson.
J'ai entendu que la tendance, c'était venu des États-Unis,
c'est le
barbecue électrique. Oui, il paraît que les Américains n'achètent plus que ça. Alors, et qu'en France, ça arrive, le barbecue.
Le partisan du moindre effort.
C'est pas pareil, en fait. Hein. Moi, j'ai fait les deux dans ma vie. Quoi. C'est vraiment pas pareil, le barbecue électrique.
Pourquoi?
Bah, ça s'accueille pas de la même façon. Bah, comme toi, tes plaques électriques,
elles sont en fait.
Ouais. Et la braise, c'est gaz, cool. Moi, je trouve que la braise, c'est cool.
Et puis, moi, je suis.
Donc, moi, la merguez et la braise, c'est toute ma vie.
Vous avez quelqu'un qui a un restaurant qui s'appelle braise.
C'est pareil. J'ai dit quoi, la braise, c'est mieux qu'électrique?
Ben, non, le barbecue, en fait, le charbon de bois va ramener justement ce goût. Alors il y a différentes essences de bois, hein, va du cerisier à l'érable, etc., qui vont parfumer en fait ta viande et qui vont donner un goût complètement unique. Donc vive le fait maison, vive le barbecue. On se retrouvera puisque le chef justement de Brest se rassemble du barbecue. Et juste une petite aparté que j'ai oublié de faire. Merci à Olivia Grégoire, parce que franchement, c'est une grande gueule qui a l'habitude de venir.
Oui,
et elle a tenu sur le fait maison, et je l'invite au salon du barbecue.
Ah. Flora, est-ce que le barbecue, c'est ton truc?
Viriliste, masculin.
Non, moi, je suis ni mangeuse de viande rouge, ni Sandrine Rousseau. Donc, je me situerai, je dirais,
sur le barbecue,
à mi-chemin. Et l'ami Didier Giraud vous le dira, au salon de l'agriculture, j'ai goûté sa viande devant Anaïs Sens. Oui. Il peut témoigner pour lui faire plaisir. Et il m'a dit, en fait, t'es une écolo, mais t'es mon ami. Donc, Didier Giraud, je le salue.
Anaïs,
c'était de la bonne viande charolaise, qui était excellente.
Bah oui, et ouais, et en fait, moi, je pense que la dernière chose à faire, c'est accabler les Français avec leur barbecue. Ça fait partie de notre culture.
Bah oui.
Après, il faut rappeler que de manger de la viande rouge matin, midi et soir, c'est mauvais pour votre santé, c'est mauvais pour la planète. Ouais. Mais je pense que tout se fait avec modération.
Ce que les gens recherchent, en fait, autour du barbecue, c'est la sociabilisation.
De se retrouver,
de boire un coup, de papoter.
Mais en fait, si vous voulez, moi, je vous dis, si vous faites un barbecue tous les dimanches et que le reste de la semaine vous mangez végétarien, on est amis, il n'y a pas de problème.
Tiens, ça me donne l'occasion de saluer quelqu'un qui écoute les grandes gueules avec son équipe, s'appelle Big T, gros T.
Ah oui.
C'est un cuisinier, c'est un franco-canadien qui s'est installé dans les Alpes-Maritimes à Saint-Janet. Il a ouvert une école de barbecue.
Ah, il y a des écoles de barbecue?
Et tu sais qui sont parmi ses premiers clients? Les entreprises.
Alain Marshall.
Les entreprises. Parce que les entreprises, c'est ce que tu disais, les entreprises,
c'est un
moment de convivialité. Ah ouais. Tout le monde se retrouve, tu prépares à bouffer. Donc, il donne des cours de barbecue, Big T. Il a son restaurant, c'est à Saint-Janet. Allez-y, vous saluez de la part des grandes gueules. En plus, le bonhomme, il parle avec un sacré accent.
Et pourquoi on fait pas un barbecue, GG?
Un quintal, deux, et vous passez un bon moment chez Big T.
Moi, je veux bien organiser. Je vais organiser une garden parking.
Garden parking.
Sur le parking devant, je vais venir, on fait une garden parking les GG.
Ah, là, pas mal.
Plus, c'est vous dire qu'on a beaucoup d'espace vert à Paris. Hein.
Moi, je peux amener du pneu et puis de la palette. Hein,
c'est voilà.
Il a l'habitude, là.
Et les légumes, c'est pour Florent.
Il a encore un peu de stock de jerrycan d'essence.
Allez, dans un instant, on continue de discuter avec les GG, avec les grandes gueules. On va discuter avec vous au 32-16. Puisque Yann Barthès, vous savez, l'animateur de l'émission Quotidien, va se retrouver devant l'Assemblée nationale parce qu'il n'invite pas le RN, Yann Barthès. Et donc, c'est le RN qui demande à ce qu'il soit auditionné. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Venez en parler avec nous dans les GG, dans les Grandes Gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.